Bon, je vois qu'il y a deux questions, du moins deux petits papiers. Je réponds tout de suite. Si j'utilise le cours de critique pour comprendre l'analogie de la procession du verbe que vous avez expliqué jeudi soir, ça, alors ça c'est peut-être plus pour le jeudi soir. L'opération d'appréhension est-elle différente de l'opération de conception ? Alors, l'opération d'appréhension et de conception, c'est la même. L'appréhension implique une conception. Voudriez-vous préciser pourquoi la négation est irréductible à l'affirmation, d'un point de vue critique, et non seulement du point de vue de l'affectivité ou du langage ? Ceci face aux auteurs qui prétendent ramener la négation à une espèce de jugement affirmatif. Par exemple, le jugement « Pierre n'est pas bête » serait parfaitement réductible à « J'affirme que Pierre n'est pas bête » ou serait parfaitement réductible à « J'affirme que Pierre n'est pas bête » ou à « Pierre est au moins un tant soit peu intelligent. » Bon, alors, il faut bien saisir qu'au point de vue critique, il y a quelque chose d'irréductible entre les deux. Vous voyez, parce que ramener la négation à une espèce de jugement affirmatif veut dire tout simplement que dans la négation est impliquée une activité intellectuelle et une activité positive. Donc, j'affirme que, c'est tout simplement montrer qu'à l'intérieur même de toute négation, il y a un acte d'intelligence, autrement dit. Essayez de comprendre. Affirmation. Négation. Il y a quelque chose de commun entre les deux. Pas du côté de ce qui est affirmé ou de ce qui est nié. Ce qui est affirmé, par exemple, dans l'affirmation « ceci est », « ceci n'est pas », donc il n'y a rien qui reste dans la négation « ceci n'est pas ». Donc il y a une opposition contradictoire, une opposition totale. Donc, du côté de ce qui est affirmé, le contenu de l'affirmation ou le contenu de la négation s'oppose, il n'y a rien de commun entre les deux. Tandis que du côté de l'opération, c'est-à-dire du nous, donc du côté subjectif, l'intelligence affirmant, l'intelligence niant, des deux côtés, il y a une opération. Il y a une opération intellectuelle. Et cette opération intellectuelle est quelque chose de positif. Oui. Donc, le genre commun de l'affirmation et de la négation, du côté de l'opération vitale, fait qu'il y a une réductibilité de la négation à l'affirmation. Et c'est, je crois, tout simplement ce qui est ceci quand on dit, par exemple, le jugement « Pierre n'est pas bête » serait parfaitement réductible à « J'affirme que Pierre n'est pas bête ». Vous montrez tout simplement qu'il y a en effet une opération intellectuelle qui est présente dans la négation. La négation implique quelque chose de positif, puisqu'elle implique une opération intellectuelle. Si elle implique une opération intellectuelle, elle implique une opération intellectuelle comme l'affirmation. Et donc, affirmation et négation ont quelque chose de commun, l'opération intellectuelle. Oui. Toutes les deux émanent du nous. Toutes les deux émanent de l'intelligence. Et donc, si je prends un aspect vital, si je suis du côté de la vitalité de l'intelligence, donc du côté de l'opération vitale, l'affirmation et la négation ne sont plus absolument irréductibles, puisque toutes les deux expriment la vie de l'intelligence. Mais si je prends le point de vue de l'intelligence proprement du côté de ce qui est affirmé, c'est-à-dire du côté de l'objet, ou ce qui est nié, c'est irréductible. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre comment on peut dépasser la contradiction. On peut dépasser la contradiction dans la mesure où on comprend qu'il y a entre affirmation et négation quelque chose de réductible. Et il y a quelque chose de réductible dans l'affirmation et la négation, justement en revenant à l'aspect vital. Si je ne regarde plus l'objet propre de l'intelligence, l'objet propre du nous, mais uniquement l'opération vitale du nous, alors à ce moment-là, je suis en présence de quelque chose de réductible. C'est la vie de l'intelligence qui dépasse affirmation et négation. C'est la vie de l'intelligence qui peut dépasser la contradiction. L'intelligence a une vie telle qu'elle dépasse la contradiction. C'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre comment, dans la philosophie, dans le processus hegélien, il y a dépassement, dans la dialectique, il y a dépassement de la contradiction. Il faut comprendre pourquoi. Même si on n'est pas d'accord, il faut comprendre pourquoi. Et vous voyez, le pourquoi provient justement de ce fait qu'on se place du côté de la vitalité de l'intelligence. Et c'est vrai, Hegel ne voit pas ce que c'est que l'intelligence, mais il voit la vie de l'intelligence. Vous voyez, le reste, ça va. Alors, pas d'autres questions à ces problèmes graves que nous touchons, le primat de l'affirmation sur le point de vue de la négation, comment je ne peux pas dire que la négation est antérieure à l'affirmation. Ça, il faut y réfléchir, parce qu'il faut essayer de comprendre comment on ne peut pas dire, alors ça c'est peut-être, je l'ai déjà touché la dernière fois, en montrant les trois moments de la vie, affirmation, négation, abstention, je m'abstiens. Et j'ai laissé tomber l'abstention, puisque l'abstention est un acte volontaire. Je ne veux pas poser une affirmation. Mais au point de vue politique, ça joue beaucoup. Dans les votes, affirmation, négation, abstention. Et l'abstention n'est pas un acte de l'intelligence. C'est un acte de volonté. Je veux me mettre en dehors. Et alors, c'est vraiment la grosse question de savoir si le fait de s'abstenir au point de vue intellectuel, c'est pas un acte de l'intelligence, c'est un acte volontaire. Alors, et ça peut jouer alors un rôle très important, l'intelligence qui veut prendre ses distances. Et c'est vraiment l'intelligence qui prend ses distances. Tandis que quand elle affirme et quand elle nie, l'intelligence ne prend pas ses distances, elle s'unit à la réalité affirmée, ou elle rejette la réalité affirmée. Du moins, ce qu'elle pense de la réalité affirmée. Alors, la question de savoir comment on arrive à mettre le primat de la négation sur l'affirmation, c'est quand même très important et très intéressant à voir. Alors, il faudrait voir, ça je ne sais pas, je n'ai pas fait l'enquête historique. Si l'un d'entre vous l'avait faite, ça m'intéresserait beaucoup. Savoir quel est le premier qui, dans l'histoire de la philosophie occidentale, a mis la négation avant l'affirmation. C'est évident qu'on le voit. Ce n'est pas une génération spontanée. Quand on arrive à une position comme celle-là, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait progressivement. Alors, on peut arriver à voir les prodromes de ça. Dans la mesure où l'intelligence ne regarde plus en premier lieu l'être, et l'être en acte, dans le jugement d'existence, mais que l'intelligence regarde en premier lieu le possible. Je crois que ça vient de là. Alors on aurait toute la grande philosophie de Leibniz qui serait à l'origine du primat de la négation par rapport à l'affirmation. Je dis que là, il y a un problème à chercher au point de vue critique. Je laissais de temps en temps des problèmes sans les résoudre pour que vous puissiez les résoudre. Hein, je fais confiance à votre intelligence. Alors, je le situe. Une philosophie qui met le possible avant l'être en acte, Est-ce qu'une telle philosophie n'engendre peut-elle pas nécessairement, ensuite à la génération suivante, de mettre la négation avant l'affirmation? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce que quand je mets le possible, est au-delà de l'essai et du non-essai. La réalité possible peut exister, elle peut très bien ne pas exister. Donc le possible est au-delà de la contradiction. Je vois très bien comment, par le possible, je peux dépasser la contradiction. Exactement par l'opération vitale, je peux dépasser la contradiction. C'est intéressant de voir que c'est les deux. Il y a les deux aspects. En mettant l'opération vitale et en mettant le possible, je vois les deux motifs par lesquels je peux dépasser la contradiction. C'est le premier moment, je crois. Quand je dépasse, quand je peux dépasser la contradiction, est-ce que je n'arrive pas immédiatement après à affirmer le primat de la négation? Alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui est le plus proche du possible, l'essai ou le non-essai? Si j'ose dire. Vous comprenez que l'essai, par rapport au possible, exige l'intervention d'un autre. Le non-essai n'exige pas l'intervention d'un autre. Ça, c'est facile à comprendre. Le possible pour passer à l'acte implique nécessairement un autre. Tandis que le possible porte en lui le non-essai. Alors, si je suis dans une vision d'immanence, si je mets le possible avant tout, je suis dans une vision d'immanence. Vous voyez que dans une vision d'immanence, le non-être est premier par rapport au possible. Si donc je reste dans le possible, j'aurai l'aspect de la négation qui restera dans l'immanence. Tandis que l'affirmation me fait sortir de l'immanence. Et je crois que c'est pour ça que toute philosophie qui met le primat sur le possible, sur l'acte, aboutit nécessairement à affirmer la négation avant l'affirmation. Ce serait facile à vérifier historiquement. Et ça, c'est intéressant à voir, vous voyez ? Parce que c'est intéressant de voir comment, dans une position de l'immanentisme absolu, la négation arrive à être affirmée nécessairement première, parce que plus proche du sujet. C'est très curieux. La négation est plus proche du sujet pensant, du sujet affirmant, c'est-à-dire opérant, du sujet qui s'exerce. Il y a une proximité plus grande. Le sujet intellectuel, pensant ou intelligent, il est plus proche de la négation. La négation est immanente. Très curieux, ça. C'est en ce sens-là que je peux dire que la négation, et ça psychologiquement, c'est un fait, c'est que la négation est plus spontanée que l'affirmation, psychologiquement. Parce qu'on est dans une attitude, justement, du sujet qui aime d'affirmer davantage son primat que le lien avec l'objet. Alors, vous voyez toutes les conséquences. Si la négation est antérieure à l'affirmation, si l'affirmation est posée antérieurement, j'ai la grande tendance de voir que tout provient du sujet. Mais je ne peux pas comprendre la position heideggerienne, je crois, si je ne vois pas cela, c'est impossible. Je ne peux pas comprendre la position de Sartre, parce que là, ils sont la même. C'est dans ce sens-là qu'il y a quand même une interdépendance entre Sartre et Heidegger. Je ne peux pas comprendre la position de Sartre si je ne vois pas ça. C'est quand même très important. C'est des positions qui sont, pour notre monde moderne, des positions clés. De voir que la négation est première. Et la négation exalte le sujet connaissant. Par là, je montre que le sujet connaissant transcende. Il garde son autonomie. Je garde mon autonomie en niant. Tandis qu'au contraire, en affirmant, je ne garde pas parfaitement mon autonomie, puisque je suis lié à l'autre. Je me lie à l'autre. Je le reconnais. Donc, je ne garde pas mon autonomie. Oui, l'enfer, c'est l'autre. Ça dit bien, puisque c'est très ennuyeux de côtoyer l'autre. Je côtoie l'enfer et je suis brûlé. Tandis qu'au contraire, si je suis dans mon immanentisme absolu, et si je suis uniquement dans l'affirmation de ce que je suis, la négation première me délivre de l'autre. Quand je nie, je suis délivré de l'autre. Porte fermée. Personne n'entrera. Je suis enfermé dans mon propre sujet. Et donc je m'exalte moi-même. Et je m'exalte parce que, de fait, c'est le possible qui est premier. C'est la métaphysique du possible qui permet, au plan critique, la primauté de la négation sur l'affirmation. Je crois qu'on peut dire ça. Vous voyez, c'est intéressant à voir pour comprendre un peu notre pensée actuelle. Alors, on comprend que, au contraire, si je reconnais que l'intelligence dans un réalisme atteint en premier lieu ce qui est, autrement dit, si l'intelligence est faite en premier lieu pour affirmer l'autre, vous voyez, on trouve toujours la philosophie du même et la philosophie de l'autre. Ceux qui s'ouvrent le cours du père de M. Lévinas verront bien le point de vue du même et de l'autre. Hein. C'est toujours intéressant, parce que c'est au fond au cœur de sa pensée. Là. La question du même ou de l'autre. C'est de saisir comment une philosophie, c'est quand même quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui essaie de saisir, alors voir comment le même et l'autre. Alors, si j'affirme l'autre, l'affirmation est première, jugement d'existence, ceci est. Bon, je laisse tomber ça, c'est un nota bene. Hein. Un nota bene, mais qui est important, qui est très important. Parce que c'est au cœur de toute la pensée contemporaine, là, on est en face d'un problème très difficile. Alors, essayez vous-même de voir ce que ça implique, quitte à lire certains passages de Sartre, qui sont les passages les plus intéressants, sur la négation. Et vous voyez dans l'être et le néant, les passages de Sartre sur la négation, qui sont vraiment, je crois, les passages les plus intelligents de l'être et le néant. Ça vaut la peine d'être lu au moins une fois dans sa vie. N'est-ce pas, pour essayer de comprendre comment Sartre aboutit à cette espèce d'exaltation de la négation, en voyant cette chose-là, voir comment la négation prime. Et puis dans Heidegger, voir comment le rien... Alors, je sais bien que Heidegger dit que ce n'est pas la négation, je le sais, il le dit. Valens avait dit que c'était la négation. Heidegger dit non, ce n'est pas la négation. Il n'a pas compris. Je comprends très bien. Mais d'où vient le néant? D'où vient le rien? Il faut qu'il vienne de quelque chose. Il faut qu'il apparaisse quand même. Alors il faut comprendre que dans le langage de Heidegger, je ne peux pas dire que c'est la négation. C'est absolument impossible. Mais je ne peux pas dire d'où il vient. Parce que Heidegger est trop ontologiste pour accepter que ce soit la négation qui engendre le néant. Pour lui, il n'y a pas de distinction. Hein. Donc, dire que c'est la négation qui est première et qui fait comprendre comment le néant est avant l'être, ce serait accepter une distinction entre l'intelligence et l'aspect ontologique. Or, de fait, il ne fait pas de distinction entre les deux. On est devant un ontologiste très très fort, hein. Et alors cet ontologisme très fort fait que, de fait, il affirme le primat du néant. Si je veux comprendre pourquoi cette affirmation, c'est parce que, de fait, il y a un primat de la négation. Et c'est sur la négation que l'affirmation se montre. Alors que nous dirions-nous juste l'inverse, c'est que la négation, c'est toujours par rapport à l'affirmation. Elle est toujours relative à l'affirmation. Donc, revenons à nos moutons. Essayons de comprendre comment le jugement applique affirmation et négation, et que ce qui nous fait comprendre le caractère propre du jugement, c'est l'affirmation et non pas la négation, puisqu'elle est première. et que la négation est relative à ça. C'est pour ça que je fais ce petit détour. Parce qu'au point de vue pratique, c'est très important. Si je mets la négation avant, c'est la négation qui doit me faire comprendre la structure de la jugement. Si vous poussiez, ce serait intéressant à voir. Comment la négation peut-elle faire comprendre la structure du jugement? Et alors, est-ce que par la négation première, je ne suis pas nécessairement ramené à la structure de l'intelligence qui est l'appréhension? Ça, ce serait intéressant à voir, là aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est un domaine qui est très difficile, le domaine de la critique, si on veut le suivre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de critique dans le sens d'une philosophie qui soit vraiment une philosophie réaliste et qui veut aller jusqu'au bout de la critique. Il n'y en a pas beaucoup. Le dernier bon livre, c'était le livre du père de Tom Wodeck. C'était le seul. Et ça date déjà. C'est déjà vieux. Ça demande d'être repris. Mais avant, c'était un bon livre. C'était un livre intelligent. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été écrits depuis, mais des épistémologies, mais qui ne vont pas très loin. Tandis que là, c'était quand même quelque chose. C'était un homme intelligent qui réfléchissait sur ce que représentait le problème de l'intelligence. Donc, voyez, là aussi un problème intéressant de voir. Si la négation est première, la structure du jugement doit se prendre par la négation. Or, la négation, qu'est-ce que ça me donne comme structure de l'intelligence? Posez-vous la question. C'est une question valable. Si je prends la négation comme première, c'est la structure de l'intelligence qui est donnée par la négation. Alors, quelle est la structure du jugement négatif? La structure du jugement négatif, c'est justement ce repliement sur nous-mêmes, parce que nous disons « ceci n'est pas ». Si ceci n'est pas, qu'est-ce qui reste? Il reste que le souci. Ce qui n'est pas. Donc, il n'y a pas de suite. Donc, il n'y a plus que ceci. Alors, à ce moment-là, est-ce que je pose la question, si la structure du jugement, c'est le jugement négatif, est-ce que ce n'est pas directement montré que le jugement provient de l'appréhension? Autrement dit, nous tombons dans une position Occamienne. Puisque pour Occam, le jugement n'est pas autre chose qu'une addition d'appréhension. Alors on pourrait reposer le problème autrement. Dans la position d'Occam, est-ce que nous n'arrivons pas nécessairement à dire le primat de la négation? Vous voyez, ce serait intéressant, parce que ça montrerait l'aller et le retour. Dans la position d'Occam, nous l'avions déjà vu, Occam est un grand tournant au point de vue critique, ça c'est sûr. C'est peut-être le moment le plus important au point de vue critique, au point de vue du Moyen-Âge. Thomas d'Aquin, Occam. Donc Scott est intermédiaire, donc il est beaucoup moins intéressant. Tandis que Occam est intéressant, parce qu'il est intéressant dans son erreur. Et Nicolas de Flux ne fera que continuer. Nicolas de Cuse ne fera que continuer. Mais Nicolas de Flux, c'est autre chose. Nicolas de Cuse ne fera que continuer le point de vue du possible. C'est pas autre chose que ça, Nicolas de Cuse. Il continue la philosophie du possible, il continue le primat de la logique, et le pousse jusqu'au bout. Il pousse jusqu'au bout ce primat du possible. Alors, il faut comprendre comment, si vous affirmez que le jugement n'est pas autre chose qu'une addition du possible, vous affirmez par le fait même que la négation est avant le jugement, avant l'affirmation. Elle est plus pure. Que je suis en face d'une pureté absolue de l'appréhension. Ça n'ajoute rien. La négation n'ajoute rien. Tandis qu'ici, ça ajoute. Donc c'est moins pur. C'est la question de la pureté. Et donc, il n'y a plus de structure propre de l'intelligence qui juge. Il n'y a plus de structure propre. La structure propre de l'intelligence ne peut se comprendre du côté du jugement que par l'affirmation. Alors, quelle est la structure propre du jugement dans l'appréhension, dans l'affirmation? C'est de voir que l'intelligence, quand elle affirme, elle adhère, c'est l'adhésion. L'intelligence adhère à ce qu'elle dit, à ce qu'elle affirme. Alors, que représente cette adhésion? C'est ça que je voudrais voir avec vous. Et essayer de comprendre tout ce qui est impliqué dans cette adhésion. Comment dans cette adhésion, je découvre la conscience, comment dans cette adhésion je découvre la possibilité de la vérité. Parce que ce sont les deux grandes propriétés de l'affirmation. L'affirmation implique une auto-lucidité. Et l'affirmation implique une capacité d'être vrai ou faux. Et la vérité et l'erreur ne sont pas les premiers, ne donnent pas la structure de l'intelligence. C'est-à-dire qu'affirmation et négation font partie de la structure. C'est ça qu'il faut bien saisir. Parce que la vérité peut exister aussi dans la négation. Mais si la négation est relative à l'affirmation, autrement il n'y a pas de vérité. Dans le prima, vous voyez, dans le prima de la négation, il n'y a plus de vérité. La négation peut être vraie en fonction de l'affirmation, mais pas en fonction d'elle-même. Donc c'est ça qu'il faut saisir. Conscience, vérité. Donc les trois choses. Hein. Dès que je suis en face du jugement, j'essaie de comprendre comment le jugement implique une adhésion. Une adhésion qui n'est pas une adhésion volontaire, qui n'est pas l'adhésion du sujet, qui est l'adhésion de l'intelligence. L'intelligence se porte vers la réalité et elle adhère. Il ne faut pas dire alors un appétit de l'intelligence qui fait que c'est l'intelligence qui devient volontaire. Non, c'est l'intelligence qui par elle-même est faite pour ce qui est et pour reconnaître ce qui est. Et dans l'adhésion, c'est l'intelligence qui reconnaît ce qui est, et qui reconnaît ce qui est comme autre qu'elle. Et reconnaissant ce qui est comme autre qu'elle, elle y adhère. L'adhésion implique justement d'abord qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est autre que nous. S'il n'y avait rien autre que nous, on n'a pas besoin d'adhérer, on assimile. Il n'y a pas d'adhésion dans l'assimilation. Aucune adhésion, on arrive au même. Tandis qu'au contraire, quand je reconnais l'autre, ceci est, alors à ce moment-là, il peut y avoir une adhésion. Toute l'adhésion implique nécessairement qu'on ait reconnu l'altérité, qu'on ait reconnu l'autre. Alors comment se fait dans le jugement cette reconnaissance de l'autre? Comment dans le jugement il y a reconnaissance de l'autre pour que le jugement implique adhésion. Il faut saisir là comment l'intelligence qui, selon l'appréhension, conçoit, et je vous disais tout à l'heure, appréhension et conception identiques. Quand je suis en face du jugement, je ne peux plus dire la même chose. Je suis obligé de comprendre que la vie de l'intelligence ou si vous voulez, l'appétit le plus profond de l'intelligence dépasse l'aspect conceptuel. Et ceci, c'est très important à saisir. Oui, c'est peut-être ce que Heidegger veut dire quand il dit que penser l'être, c'est pré-conceptuel. C'est mal dit, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est mal dit. Mais c'est peut-être ça qu'il veut dire. Dans le jugement d'existence où je dis ceci est, il y a quelque chose qui est au-delà du concept. Alors je ne dis pas pré-conceptuel, j'aime mieux dire au-delà du concept. Je vois que ma vie intellectuelle n'est pas adéquate au concept. Tandis que quand je suis dans l'appréhension, j'aurai la tendance de dire que ma vie intellectuelle est adéquate au concept. Et c'est pour cela, du reste, que ceux qui ramènent le jugement à l'appréhension ramènent toute la vie de l'intelligence au concept et donc très facilement à la logique. Il y a une conséquence de tout cela. Alors, comprenons, quand l'intelligence affirme dans le jugement d'existence ceci est, l'intelligence dépasse l'aspect conceptuel. Et elle atteint, elle touche le réel existant. il y a un toucher de l'intelligence du réel existant. L'intelligence atteint le réel existant. Et elle l'atteint directement à travers les concepts, mais au-delà du concept. La vie de l'intelligence ne se termine pas au concept, elle se termine à la réalité existante. Si le concept était adéquat à ma vie intellectuelle, l'intelligence s'arrêterait au concept. Mais c'est ça le conceptualisme, quand on parle de la théorie du conceptualisme. Le conceptualisme, ça consiste à regarder que l'intelligence est enfermée dans le concept. Et que l'intelligence conçoit en premier lieu, atteint en premier lieu le concept. Tandis qu'au contraire, quand je dis que l'intelligence dépasse le concept, va au-delà du concept, je veux dire que l'intelligence, en se servant du concept, va plus loin. L'intelligence est capable d'atteindre le réel existant. Alors là, c'est très difficile à saisir, hein, et c'est très important. Si je ne vois pas ça, il y a quelque chose que je ne saisis pas, et puis je ne peux pas saisir la métaphysique. C'est là le point où je justifie le fondement même de la métaphysique, hein, au plan critique. Je vois comment l'intelligence, par nature, est ordonnée à ce qui est. Et donc, par nature, l'intelligence saisit ce qui est en se servant du concept. Mais au-delà du concept. Vous voyez ? Au-delà du concept. Le concept est de l'ordre du moyen. Il y a un moyen, c'est le concept. Mais je vais au-delà du concept. Le concept est de l'ordre de la forme intentionnelle. C'est très très bien cette forme intentionnelle. Mais je la dépasse. Et je saisis la réalité existante. Et c'est cette réalité existante que mon intelligence touche et atteint directement. Vous voyez, ce toucher intellectuel qui fait que l'intelligence est capable de comprendre que la réalité n'est pas seulement ce qui spécifie son intelligence, mais que la réalité est capable de mesurer ma vie conceptuelle. Ça, c'est très important à saisir. Si on ne voit pas ça, je crois qu'on ne saisit pas du tout ce que c'est que le réalisme. C'est là seulement où vous saisissez le réalisme. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'enseignais ici, les premières années, le point de vue de la critique, il y avait toujours un étudiant qui me posait la question. C'est un étudiant très intelligent, remarquablement intelligent. Mais il avait une peine énorme à comprendre. Comment l'intelligence qui atteignait en premier lieu le concept, pouvait cependant dire que la réalité était la mesure du concept. Parce que si je suis enfermé dans le concept, je ne dépasse pas le concept. Alors vous voyez bien la différence entre la spécification qui se fait par l'objet, l'objet spécifie, et la réalité mesure. C'est deux choses tout à fait différentes. Et la plupart des objections qu'on fait au thomisme proviennent du fait qu'on n'a jamais saisi la différence entre les deux. Entre autres, Kant. Il n'a pas saisi entre les deux. Alors, quand vous êtes en face d'un kantien, comprenez le dépassement qu'il faut faire. Parce qu'il est resté au niveau de la spécification. L'objet, c'est ce qui spécifie. C'est très vrai, l'objet, c'est ce qui spécifie. Mais la réalité connue, c'est plus que la spécification. Parce que c'est la réalité connue. La réalité connue est plus que ce que je connais de la réalité. Ça, je peux le comprendre très bien. La réalité connue est plus que ce que je connais de la réalité. Donc, quand vous dites ça, hein, quand vous acceptez ça, quand vous le reconnaissez, et vous pouvez le faire, homme qui a encore un peu de bon sens. Celui qui n'en a plus ne peut plus le reconnaître. C'est la frontière. C'est la frontière. Tout homme qui a encore un peu de bon sens reconnaît que la réalité connue est plus que ce que je connais de la réalité. Et je peux affirmer cela, c'est ça qui est merveilleux. Si je peux affirmer ça prouve que mon intelligence dépasse mon concept. Parce que si je ne peux pas affirmer ça, mon intelligence s'enfermait dans le concept. Alors mon concept, c'est ce que je connais de la réalité. Ce que je connais de la réalité, je le connais par le concept. Mais mon intelligence est au-delà du concept. Elle dépasse le concept. Ça ne veut pas dire que je puis connaître en dehors du concept. Je connais par le concept. Je connais plus que le concept. Mais concept fermé, concept ouvert. On pourrait dire ça par rapport, exactement comme Bergson, morale fermée, morale ouverte. Alors, il y a des concepts fermés, alors qui font que l'intelligence est enfermée dans ces concepts. Et puis, il y a le véritable concept qui est un moyen qui me permet d'atteindre ma fin. Quelle est la fin de l'intelligence? Est-ce que c'est se gargariser de concepts? Il y a des gens qui se gargarisent de concepts. C'est un gargarisme très particulier. Contre les maux de gorge. Se gargariser de concepts. Se gargariser de concepts, c'est ce qu'on appelle la cérébralisation. Alors, on est tout le temps dans ces concepts, on est tout le temps dans ces rationnels, si on reste tout le temps dans ces concepts, ce qu'on a connu de la réalité. Et on n'en sort pas. On a eu beaucoup de peine d'arriver à un concept. Et une fois qu'on est arrivé à un concept, on n'en sort plus. N'est-ce pas? C'est très difficile. Et je comprends, c'est pas commode. C'est pas commode d'en sortir. Si on n'est pas tout le temps dans le jugement d'existence, ceci est, qui nous fait comprendre comment, grâce au concept d'être, qui est un concept ouvert. C'est pas le concept d'être, c'est pas le ceci. Le ceci m'enferme. Il est. C'est le propre du concept d'être, qui est un concept ouvert, et qui me permet alors d'atteindre le réel et d'atteindre pour lui-même, au-delà du concept. Et je peux à ce moment-là dire que ce que je connais de la réalité est relatif à la réalité, mais que la réalité est première. Et si la réalité est première, elle est donc mesure. Alors je comprends que la réalité n'est pas seulement ce qui spécifie ma connaissance, mais c'est ce qui mesure ma connaissance. Et ce qui, par le fait même, relativise toute ma vie conceptuelle. Si je relativise toute ma vie conceptuelle, je comprends que ma vie conceptuelle, elle est seconde, et elle est un moyen pour rejoindre le réel. Et c'est ce qui me fait comprendre aussi. Comment tout l'effort philosophique, c'est de revenir toujours au réel existant, l'homme. Et non pas de rester enfermé dans mes concepts. Parce que rester enfermé dans ces concepts, c'est étroit. Tandis qu'au contraire, rejoindre le réel, c'est jamais étroit. On respire. Alors, c'est là le moment, vous voyez, il y a un moment très important. Et ça, on le saisit ou on ne le saisit pas. Ça, je suis obligé de dire là, on le saisit ou on ne le saisit pas. Votre vie intellectuelle, dans le jugement, ceci est, peut très bien rester uniquement au niveau du ceci. Alors, jusqu'à la fin, vous resterez dans le ceci, vous n'atteindrez pas est. Et vous mettrez l'idée avant la réalité. Tandis que dès que vous connaissez ceci est, cette réalité existe. J'existe. Je comprends qu'il y a un dépassement à l'égard de tous mes concepts, de tout ce que je possède au-dedans de moi-même. Il y a donc quelque chose qui fait que mon intelligence, comme intelligence, s'ouvre au réel. Et parce qu'elle s'ouvre au réel, elle adhère au réel. Le dépassement du concept. Tandis que dans le concept que je possède, il n'y a pas d'adhésion. Ce n'est pas une profession d'adhérer à vos concepts. Profession extraordinaire. J'adhère à mes concepts et seuls mes concepts sont intéressants. Et par le fait même, les concepts du voisin n'ont aucun intérêt. Tandis qu'au moins, si vous adhérez au réel, votre voisin peut l'atteindre aussi. Et alors vous avez un dépassement de vos concepts qui vous permet de rejoindre l'autre aussi qui a des concepts qui ne sont pas tout à fait les mêmes que vous, parce qu'ils sont plus jeunes et que les autres, les vôtres sont plus anciens. Alors, mais c'est la même réalité. On regarde le même champ. Je vous ai déjà dit à certains, ce petit raisonnement que j'avais fait avec des psychanalystes. Ils étaient venus me voir ici en Suisse, et on avait dit, on va passer 8 jours ensemble. 8 jours ensemble. Comment 8 jours de psychanalyse, de réflexion critique avec des psychanalystes. Alors on s'était mis dans un lieu magnifique qui était au Mont Pèlerin, pas très loin de Fribourg. Et le Mont Pèlerin a l'avantage qu'on n'est quand même pas trop mal. Alors on discutait, mais on discutait ferme pour savoir s'il y avait une objectivité de la connaissance. Et eux disaient évidemment qu'il n'y avait aucune objectivité de la connaissance et que nous connaissions en fonction tout simplement de tout notre conditionnement. Ils étaient occamiens, sans le savoir. Ils étaient au camion. Tout d'un coup, il y a un écureuil qui apparaît. L'écureuil s'intéressait d'entendre de la psychanalyse, je crois. Alors, il apparaît. Il apparaît, il s'approche, il s'approche. Alors, évidemment, à ce moment-là, on s'est tous tus. On a regardé l'écureuil. C'était délicieux, c'était merveilleux. C'est très reposant. J'avais un petit écureuil de temps en temps, comme métaphysique, au cours de critique. Comme serait reposant. On montrerait, on garderait le petit écureuil. C'est étonnant. Hein. Ça fait partie de la restructuration de la philosophie, vous voyez. De mettre l'écureuil pour qu'on devienne quand même un peu réaliste, quoi. C'est nécessaire. Mais élever un petit zoo au milieu de la philosophie pour qu'on reste réaliste. Alors on regardait l'écureuil. Quand l'écureuil s'est écarté, on a recommencé. Alors avant qu'il recommence, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez vu ? Ils m'ont regardé blême, comme si j'étais un imbécile. Mais un écureuil. Mais c'est assez curieux, moi aussi. Oh, c'est extraordinaire. Nous avons vu tous les deux un écureuil alors que nous étions diamétralement opposés dans nos positions philosophiques. Vous étiez conditionné comme ça, moi j'étais conditionné de cette manière-là. C'est curieux. Comment se fait-il que l'écureuil nous réconcilie ? Et que grâce à l'écureuil, nous affirmons la même chose. J'ai vu un écureuil et tu as vu un écureuil. Là, on a le droit de dire le tu, n'est-ce pas ? Parce qu'auprès de l'écureuil, on se tutoie. Tu as vu un écureuil et j'ai vu un écureuil. Donc, nous sommes là, reliés dans l'écureuil. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que peut-être il y a une possibilité de dépasser son conditionnement. Parce que votre conditionnement n'explique pas comment vous avez vu un écureuil. Je regrette. Mais votre conditionnement ne l'explique pas. Comme le mien non plus, du reste. Je ne veux pas dire que je suis plus proche de l'écureuil que vous. Non, non, pas du tout. Votre conditionnement n'explique pas l'écureuil, et le mien non plus. Il y a donc quelque chose qui intervient à un moment donné, indépendamment de notre volonté, indépendamment de notre discussion. Et nous avons été attentifs à l'écureuil, nous pouvons le décrire, pouvons le dessiner, pouvons dire, nous avons vu comment il s'amusait vis-à-vis de nous, c'était très curieux. Donc, on a posé un jugement d'existence. L'écureuil est là. Et cet écureuil existe. Alors, j'ai essayé à partir de là de leur faire comprendre le dépassement du conditionnement. Qu'est-ce qui nous conditionne radicalement ? Ce sont nos concepts. Vous savez, ça c'est un conditionnement très très radical. Vous êtes conditionné par vos concepts. Hein. Si vous avez des concepts clairs, vous aimerez la clarté. Si vous avez des concepts obscurs, vous aimerez l'obscurité. Ça c'est sûr. On est conditionné par ces concepts. Tous. Nos concepts sont liés à l'imaginaire, on est conditionné par l'imaginaire. Notre imagination est liée à nos passions, nous sommes conditionnés par nos passions. Bien évident. On est conditionné par nos concepts, par nos imaginations. Qu'est-ce qui nous permet de dépasser notre conditionnement très radical ? La réalité qui existe. Et quand je dis que cette réalité existe, je touche quelque chose au-delà de mes concepts. Ce qui est très curieux, c'est que nous affirmons, même si nous ne sommes pas d'accord dans le conditionnement de nos concepts, nous affirmons, il y a là un petit écureuil. Ce petit écureuil existe. Vous voyez, c'est rien ça. Vous allez dire, ah mais c'est ce qu'ils ont eu la tentation de dire, ah mais ça c'est la vie courante. La vie courante, quoi. Est-ce que vous faites un casier entre vie courante et... Mon intelligence, elle est là pour regarder ce qui se passe autour de moi. Je vais plus loin, je ne vais pas rester toujours à l'écureuil. C'est bien évident, je vais essayer de fermer les yeux et de réfléchir. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de réfléchir et nous allons loin dans notre réflexion. Et alors, dans notre réflexion, on voit le dépassement de l'intelligence par rapport au plaisir. Ils adhèrent à leur réel, mais ils ne disent pas que l'intelligence est réelle. Parce qu'au fond, on est conditionné. Et alors, vous voyez, leur opération, toute leur méthode repose là-dessus.